Bonjour, c'est Alex. Vous êtes sur Pleine Radio. Je vous propose de passer une heure en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous ouvrir son univers, nous dévoiler ses souvenirs et partager ses émotions au gré de ses confidences musicales. Et tous et bienvenue sur Pleine Radio pour une émission très spéciale de ces confidences musicales. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 juin et pour nombre d'entre nous, cette date, c'est à jamais le jour J, le D-Day. Alors à thème exceptionnel, format exceptionnel, ce n'est pas une mais deux émissions que je vous propose. La deuxième émission devrait commencer vers midi. Je recevrai alors un invité qui amènera avec lui des archives sonores des années 39 à 45, des chansons qui ont accompagné les peurs, les peines et les espoirs. Mais avant cela, je vous invite à un voyage sensible entre passé et présent, entre mémoire collective et perception intime. Il s'appelle Lucas, Noémie, Matt et Jean-Marie. Tous les quatre ont fait le pèlerinage en Normandie, mais à 62 ans d'écart. Deux époques, quatre regards, une même sensibilité. Cette émission ne vous racontera pas les batailles, non. Elle va plutôt s'arrêter sur ce qui demeure quand le temps passe. La mémoire, la transmission, le recueillement et l'hommage. Hommage à ces jeunes hommes de 18 à 25 ans qui, pour la plupart d'entre eux, ont pris la mer pour la première fois pour joindre une terre inconnue et hostile. Hommage à ces jeunes hommes de 18 à 25 ans qui ont dû quitter leur famille, peut-être même une fiancée, en laissant derrière eux douceur et nostalgie. Voilà, le ton est donné, il va y avoir de la musique, il va y avoir des échanges, des confidences et de l'émotion, j'espère. Alors bonjour à vous, Matt, Lucas, Noémie, Jean-Marie et un Romain aussi qui est là, qui se cache. Et Malvine qui est avec nous.
Bonjour Alex.
Aux dédicaces.
Oui.
Il paraît qu'on peut écrire ce matin. C'est une spéciale dans Confidence Musicale.
Exactement.
Non. On redit comment on fait ?
Ah ben si tu veux, moi il n'y a pas de problème. Il suffit de se rendre sur notre site internet www.pleineradio.fr et vous allez dans dédicace et vous nous laissez un petit message si vous voulez interagir avec nos invités.
Voilà, si vous voulez nous dire aussi ce que ça symbolise pour vous ce 6 juin, ce D-Day. Alors tout de suite, pour bien poser un peu le décor, je vais vous donner la parole, chacun à votre tour, et vous allez nous dire tout simplement ce que vous avez vu sur les plages du débarquement. Vous avez visité des choses, vous avez vu des sites, des paysages. Quel est le premier qui prend la parole ? Au hasard.
Bon bah, je vais commencer par prendre la parole.
Alors déjà, tu te présentes. Tu es Matt ?
Oui, moi c'est Matt. Et donc, je vais commencer par vous parler des plages du débarquement.
Ok.
Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir visiter la plage d'Arromanches et on a pu y voir des vestiges de ce jour du débarquement, de nombreux édifices aussi bien allemands que français ou américains. On a pu voir des casemates avec les canons qui servaient aux Allemands à protéger cette plage.
Oui, parce qu'ils savaient bien, qu'un jour le débarquement allait se faire.
Oui, oui, le débarquement était connu des Allemands, mais c'est resté quand même assez furtif parce que on sait que la France a mis en place beaucoup de techniques, on va dire, pour pas que ça soit trop visible.
Très bien. Alors toi, ce qui t'a marqué, c'est les casemates.
Oui.
C'est la plage. Noémie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu ? Évidemment, on va développer tout ça. Hein. Vous inquiétez pas, on a du temps aujourd'hui. Ça va être une séance marathon. Noémie, on t'écoute.
Nous nous sommes rendus au mémorial de Caen, où nous avons pu rendre hommage à toutes ces personnes décédées ou qui se sont battues pour le débarquement. Il y avait un effet de son et lumière dans toutes les pièces. Et certaines pièces étaient composées de discours, notamment de Charles de Gaulle et d'Hitler. Et nous avons été au D-Day Experience pour faire un simulateur d'avion et nous rendre compte de ce qu'ils ont enduré durant le débarquement.
Très bien. On va développer aussi tout ça parce que c'est important. Hein, les gens, les auditeurs auront compris. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'histoire. On va être vraiment sur la mémoire et sur tout ce qui a été mis en place en Normandie pour rendre hommage, commémorer et se souvenir de cet événement important. Et lorsque tu parles du mémorial de Caen, c'est vrai qu'on peut le dire maintenant, ce n'est pas un musée. Ce n'est pas le musée dont Jean-Marie va nous parler tout à l'heure et qu'il a bien connu à Arromanches. C'est un centre d'interprétation, donc c'est un endroit où il y a des mises en situation pour créer l'émotion, pour faire réfléchir. Hein. C'est vraiment ça que tu as ressenti quand tu dis il y avait de la lumière, il y avait du discours. Voilà, c'est une évocation qui permet l'émotion. Lucas, à toi.
Alors, moi, c'est que j'ai retenu du voyage, c'était le cimetière américain.
Qui s'appelle donc le cimetière de Colville.
Oui, c'est ça, où on peut y voir les tombes des défunts.
Oui, il y a un très très grand nombre de tombes. Je me souviens, hein, quand on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué, ça vous avait beaucoup ému. Donc on rappelle ce cimetière, alors là pour le coup qui n'est pas quelque chose de réinventé, puisque le cimetière a été créé juste après le débarquement. Il y a vraiment des sépultures dans la terre et c'est cette rencontre extraordinaire entre un cimetière majestueux et tranquille qui surplombe la plage dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, la plage d'Omaha, qu'on a aussi appelée Omaha la sanglante, parce que c'est là que tous les petits gars sont arrivés et un certain nombre d'entre eux mais n'ont même pas pu arriver jusqu'au sable. Merci pour ce petit tour d'horizon qui va déjà nous aider à planter le décor. Mais avant, moi, je voudrais simplement comprendre. Alors, je vais donner la parole à Romain, qui est votre animateur, votre éducateur. Vous le connaissez depuis longtemps. Il a l'habitude d'organiser les voyages. C'est vous, Romain, qui avez organisé ce voyage.
Oui,
expliquez-nous exactement d'où ça vient. À quel moment on envoie des jeunes aux plages du débarquement?
Alors, pour comprendre les choses, avant toute chose, c'est un séjour qui est organisé par la communauté de communes Cézanne Sud-Est Marnais. À destination des jeunes du territoire, donc qui concernait et les collégiens et certains lycéens entre Anglure, Esternay et Cézanne. Et à travers ce séjour, en fait, la communauté de communes avait pour volonté d'accompagner les jeunes dans leur épanouissement et surtout dans leur parcours citoyen.
Oui, parce que, bon, Alex, vous savez, elle est toujours un petit peu impertinente. Hein. Les voyages de jeunes comme ça, en général, c'est plutôt sport, loisirs.
Exactement. En fait, on avait plus pour habitude de proposer des séjours à caractère sportif ou découverte sportive. Et on a réfléchi et on s'est dit peut-être qu'on met une certaine catégorie de jeunes sur le côté, voilà, en proposant que des séjours de ce type-là. Du coup, on a voulu faire évoluer cet esprit en proposant des séjours plus à caractère culturel, et là, en l'occurrence, pour ce séjour, à caractère mémoriel pour les jeunes du territoire.
Et donc, c'est vous, personnellement, qui avez organisé le voyage?
Exactement.
Comment on fait pour organiser un voyage comme ça? Il n'y a pas de tour opérateur?
Non, il n'y a pas de tour opérateur.
C'est vous qui avez creusé un peu le sujet.
Oui, exactement. En fait, on se rapproche aussi beaucoup des offices de tourisme locaux, pour pouvoir avoir les bons contacts pour pouvoir organiser tout ça. Autant sur l'organisation en elle-même, le transport, tout ça, bon, c'est une habitude, hein, puisque c'est acté depuis plus de 10 ans, mais autant sur place, on s'est plus rapproché de tout ce qui était office de tourisme, guide sur place également, pour pouvoir proposer quelque chose de concret et de construit pour les jeunes qui sont venus au séjour.
Voilà, comme ça, ça me permet déjà de dire que si à la fin de cette émission, il y a des gens à qui vous aurez donné le goût d'aller visiter les plages, et ça, je n'en doute pas une seconde, eh bien, c'est très facile à organiser. Il n'y a pas besoin de faire partie d'un groupe. On peut prendre son téléphone, aller sur Internet, et les offices de tourisme sont là pour ça. Romain ?
Oui, je voulais juste rajouter un point. Je voudrais quand même saluer la démarche de la communauté de communes qui soutient toujours à 100% ce genre de séjour, notamment ce séjour mémoriel sur les plages du débarquement, parce que c'était quand même un projet particulièrement fort, pardon, qui a permis vraiment aux jeunes...
On sent que vous avez encore un petit peu d'émotion.
Ouais, hein, de mieux comprendre notre histoire, de pouvoir rendre également hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté, et surtout de transmettre le devoir de mémoire aux nouvelles générations à venir.
Et oui, c'est tout à fait le sujet. Je vous remercie beaucoup. Vous avez totalement planté le décor de cette émission. Et alors maintenant, j'ai un petit peu quand même envie de vous redonner la parole, les jeunes. Ça va, les jeunes, déjà?
Oui, très bien.
Ouais, ça va,
oui.
Tout le monde est là, super. Pourquoi vous avez eu envie d'aller dans ce voyage particulier? Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que le débarquement, c'est quelque chose dont on parlait chez vous? Est-ce que vous aviez regardé un peu des séries, des films? Bref, qu'est-ce qui vous a motivé?
Moi,
ne
c'est
vous
parce
battez
que...
pas, hein, surtout.
Moi, c'est parce que j'adore l'histoire, et notamment cette période-là. Donc, je me suis dit que c'était très intéressant d'aller à cette colo et d'en apprendre beaucoup plus et de m'y intéresser
de près.
De près, voilà.
Tu n'y étais donc jamais allé?
Non,
c'était une super occasion.
Exactement.
Très bien. Les garçons, je vois que vous vous battez pour savoir qui va prendre la parole.
Alors, moi, pour ma part, j'ai voulu assister à cette colonie parce que je voulais voir vraiment ce qui restait sur les plages de cet événement qui a vraiment marqué le monde tout entier, finalement. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir vraiment les débris qui restent aujourd'hui.
Les traces tangibles.
Vraiment, voilà, tout ce qui peut rester aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux de pouvoir être ici aussi pour comparer avec Jean-Marie comment c'était il y a plusieurs années.
Eh bien, Lucas, rapidement, parce qu'effectivement, Matt vient de nous faire un superbe enchaînement, mais je ne peux pas rebondir. Lucas, je te donne la parole.
Eh ben moi, quand j'ai vu l'opportunité d'aller à ce voyage, j'ai tout de suite pris cette opportunité parce que ça m'intéresse énormément. Tout ce qui s'est passé, l'histoire de la France et tout sur l'histoire. Donc j'ai choisi d'aller Ouais. J'ai choisi d'y aller pour découvrir.
Eh bien, super.
Apprendre.
Romain, simplement une dernière question, puis après, on va vraiment dans le cœur du sujet. Finalement, combien d'enfants sont partis à ce voyage ?
Alors là, sur ce voyage, on en a emmené 45 jeunes. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le plus jeune avait 11 ans, les plus anciens avaient 17 ans, et on a réussi à faire une union du groupe sur tout ce qui était découverte historique et le devoir de mémoire, justement. Sur, et tout le monde vraiment a accroché. Quoi.
Oui. Est-ce que déjà, pendant ce voyage, où il y avait une grande différence d'âge, vous, les grands, vous avez eu l'occasion d'accompagner les plus petits, de réexpliquer peut-être des petites choses qui leur auraient échappé à certains endroits, que ce soit le cimetière ou le mémorial? Est-ce que vous avez déjà été un peu passeur à ce moment-là?
Alors oui, bien sûr. On a eu la chance de pouvoir partager ces découvertes avec de jeunes adolescents qui n'ont pas du tout hésité à venir voir les plus grands lorsqu'il y avait des zones plutôt floues dans les explications ou dans les petites découvertes qu'ils ont eues dans ces édifices. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir partager tout ce qu'on comprend. Et même les discussions avec les jeunes peuvent nous faire réfléchir pour pousser notre réflexion.
Donc vous voyez, il y a déjà de la transmission, même dans un groupe et même dans ce premier voyage. Et la transmission, c'est exactement ce qu'on va faire aussi avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Comment vous présentez à nos auditeurs, Jean-Marie ?
Alors moi, je suis amateur d'histoire d'abord, donc suite à ces pèlerinages déjà lointains, j'ai acquis l'envie
passionnée
de chercher à la fois à l'échelon national, mais aussi beaucoup à l'échelon régional.
Alors quand vous dites j'ai eu envie de chercher, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher de l'information?
Oui.
Où vous êtes allé chercher des choses, des objets, des traces tangibles, comme on
non,
disait
non,
tout à l'heure.
Suite à je pense que ça part, c'est vrai, à la visite des plages de débarquement.
Ça a été le déclic pour vous?
Oui, oui. Enfin, okay. Il y a déjà un environnement familial qui, avec des souvenirs racontés fréquemment dans les repas de famille. Parce que moi, il faut dire que j'ai pris contact avec la Normandie au 10e anniversaire du débarquement, c'est-à-dire en 1964.
Voilà, on va replacer dans son contexte, hein, ouais. Mais le temps n'a pas de traces sur vous, Jean-Marie, donc on peut y aller. Donc effectivement, vous, c'est en 1964
oui, oui.
que vous êtes arrivé en Normandie.
Le déclic, c'est-à-dire tout le monde, enfin, beaucoup de personnes allaient en Normandie suite à la vision du film Le jour le plus long.
Oui, on va en parler. Mais vous voyez, j'ai demandé aux jeunes si c'est un sujet qui était évoqué dans les familles. Vous, évidemment,
oui,
le
oui,
sujet
oui.
était évoqué dans les familles non, parce que c'était encore tellement présent, tellement à vif, même pour certains.
Oui, oui, même au niveau de mon enfance, puisque je suis né en 1954. Et donc, 10 ans après la fin du conflit, c'était encore très, très sensible dans mm-hmm. les familles, dans les esprits, mm-hmm. avec tout ce que les gens avaient vécu, subi, etc.
Et lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer l'émission, vous m'avez dit que même quelquefois, c'était un peu agressif. Hein, chacun
oui, oui.
avait sa vision des choses. Et voilà, c'était tellement
oui,
à vif que ça pouvait créer des tensions dans
oui,
les
parce
familles.
Parce que c'est vrai que, comme on dit maintenant, la France était quand même divisée beaucoup sur le plan...
Même 20 ans après.
Ah bah oui, oui, oui.
Alors, on va revenir au contexte. Vous m'avez dit clairement, ce qui m'a donné envie d'aller en Normandie, c'est Le jour le plus long.
Ah bah oui.
Et j'enchaîne avec le côté cinéma, qui va devenir le côté musique, parce que j'ai choisi pour cette émission, non pas de mettre des morceaux d'origine, ça viendra après, dans la deuxième émission, mais des morceaux aussi évocation. Ce seront que des morceaux issus de films. Et je crois que pendant l'émission, on va sentir aussi un glissement. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur des films et des musiques qui ont une certaine vision
de la guerre, et ça vous en parlerez, hein, parce que j'aime beaucoup ce que vous dites sur ce film Le jour les plus longs. Et puis petit à petit on va aller sur des films de plus en plus tragiques, de plus en plus réalistes, pour finir par quelque chose de presque un petit peu lyrique. Donc je vous propose aussi un voyage musical, aussi un voyage cinématographique. D'ailleurs j'en profite pour dire que le premier morceau que nous avons passé, ça avait l'air d'être du jazz des années 40, des années 30, et ça ne l'était pas. C'était un morceau de Michel Legrand qui a été composé exclusivement pour un film de Claude Lelouch qui est sorti en 1981, qui s'appelle Les uns et les autres, et qui donc était un film choral où convergeaient quatre familles à travers plusieurs décennies, des familles qui ont vécu en parallèle et en croisée tous les grands moments des années 40 à 80, donc une famille française, une famille allemande, une famille russe et une famille américaine. Mais on reviendra beaucoup sur Michel Legrand parce qu'Alex est un petit peu fan, donc elle est un petit peu... voilà. Tout de suite, Jean-Marie, je vous donne la parole. Donc, Le jour le plus long, quel est, quand vous y pensez, vous pensez à quoi ? À la musique ?
Oui, la musique d'abord, ah, parce qu'elle soutient beaucoup,
qui a marqué tout le monde.
Le film. D'ailleurs, elle commence par la lettre V en morse. Hein, vous savez,
absolument. Vous pouvez nous le faire ? Oui, il ne s'agit pas de dire des choses comme ça. Hein, Jean-Marie, il faut y aller. Hein.
Ah oui, faut pas jouer.
Bon, allez, je vous aide. Allez, on écoute tout de suite Le jour le plus long.
C'est pom 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 pom.
Ouais, on écoute tout de suite Le jour le plus long. Donc, c'est un film de Daryl Zanuck, oui, de 1962.
Sur un roman de Cornelius Ryan.
Et on écoute tout de suite ça.
Fais-moi grimper là-haut, putain. Il y a un petit côté va-t-en-guerre dans cette musique. Alors Jean-Marie, je veux tout savoir sur vos émotions en écoutant ce morceau.
À la vision du film ou...
Ah ben les deux, les deux mon capitaine, allons-y.
Bon, ben la vision du film, c'est vrai que c'est une super production. Donc chez le gamin que j'étais, c'était fabuleux parce que beaucoup de matériel, beaucoup de puis le film de guerre pour un gamin, c'est...
Et puis tellement d'acteurs, tellement de personnalités fortes.
J'ai vérifié avant de venir, mais 50 acteurs célèbres.
En passant, à la fois américains et français. En plus, il y avait ce côté très mélangé entre les Américains et les Français. Et donc, à cette époque-là, vous avez été subjugué.
Oui.
Et maintenant, vous portez un regard un peu différent sur le film.
Et pourtant, je l'ai vu dans un cinéma où les sièges étaient en bois, et donc le film de 3 heures... C'était très
ouais, ça pique
très
un peu. Hein. On ferait plus ça maintenant. Hein. Mais à l'époque, on était habitués.
Oui, parce que c'était l'époque de Laurence d'Arabie, du Docteur Jivago. C'était des films qui duraient très, très, très longtemps.
Mais donc... qui avaient des entr'actes.
Oui.
Maintenant, il n'y a plus ça. Bon, alors, maintenant, quel est le regard que vous portez sur ce film?
Bah, super. À l'époque, ce n'était pas perçu, mais aujourd'hui, super production, mais qui ne tient pas toujours compte de la réalité. Parce que Daryl Zanuck a pris des libertés pour tourner, notamment des témoignages qu'il a mal réorchestrés dans son film. Mm-hmm. Enfin, ceci dit, c'est le film du débarquement, pour l'instant. C'est...
Et puis, je crois, c'est vous qui allez me le dire, mais je crois quand même que c'est le premier film qui est sorti sur la Deuxième Guerre mondiale. Oh, donc, il a fallu attendre 20 ans.
Non, non, dans les années 50, il y a eu beaucoup de films. Notamment,
il y en a eu déjà.
Notamment sur Guadalcanal, beaucoup axé sur le Pacifique.
Oui.
Sur les combats du Pacifique.
Le pont de la rivière Kouai, qui doit être antérieur. Mais sur le débarquement en Normandie, c'était quand même le premier.
Ben en fait, oui, c'était le premier. Il y a eu quelques films. Il y a par exemple 24 heures avant le débarquement. Il y a quelques films qui l'abordent, mais plutôt sur le côté marginal, le côté préparation. Okay.
Mais en attendant, c'est vrai, quand on a préparé l'émission, on s'est dit tous les deux, on le sent à la musique, il y a un petit côté un peu western.
Oui,
du coup, un côté les bons et les méchants.
Oui,
ça avait l'air tellement facile. Et c'est évidemment pas du tout cette ambiance-là qu'on va retrouver dans une série comme Band of Brothers ou dans Le Soldat Ryan.
Ceci dit, il y a beaucoup de films de guerre où les Allemands sont un petit peu tout tournés, pas en ridicule, mais en bouffon. Quoi.
Disons que c'est très manichéen.
Là, on respecte quand même les personnages, l'histoire, même si Daryl Zanuck, encore une fois, a pris certaines libertés. Mais je trouve que le contexte, le fond est quand même très, très bien respecté. D'ailleurs Daryl Zanuck a fait ses prises de vue beaucoup en Normandie, mais aussi en Corse, dans la Manche, etc. Mais globalement...
Mais ils sont quand même beaucoup revenus sur la Normandie. Et justement, vous me disiez qu'en 64, lorsque vous êtes arrivé, vous avez quand même été surpris de voir à quel point c'était encore très détruit.
Ah oui, je vous citais d'ailleurs le logement à l'hôtel dans le centre de Caen qui était encore... entouré de ruines. Pour moi, gamin, la guerre était finie depuis 10 ans, donc c'était
derrière vous,
tout était nettoyé, tout était propre, mais en fait, certaines plages étaient inaccessibles, certains endroits, et puis les musées étaient inexistants.
Oui.
La seule prise de contact, c'est avec le musée d'art romanche. Bon, j'ai été vraiment épaté par la maquette qui est mobile. Qui représente le fameux...
Tu vois, un matin, tu parlais tout à l'heure du port artificiel d'Arromanches. Eh bien, tu peux demander à Jean-Marie à quoi ressemblait le port artificiel en 64.
Oui, parce que...
Je pense qu'il était un peu plus complet que celui qu'on peut voir maintenant.
Oui, parce qu'au fil des années, étant donné que c'est des blocs béton qui ont été coulés sur le fond, automatiquement, la mer les attaque et les détruit. Hein. Donc, il viendra... D'ailleurs, j'avais entendu dire qu'une étude avait été faite pour reconstituer la plupart des blocs béton pour justement refaire le mieux possible le port artificiel.
Alors en 64, pas de grand musée hein, comme le mémorial de Caen que citait Noémie. Non. C'était l'unique musée, c'était à Romanches, un petit musée avec notamment des maquettes pour bien comprendre la bataille. Mmh. Et voilà, au long de l'émission, on expliquera aussi tout ce qui s'était développé.
Il y avait un autre musée qui était un petit peu désuet, c'était à l'Aigle. Et là, dans le musée, ils avaient reconstitué des salles, par exemple, l'appel du 18 juin, mais c'était des personnages en cire d'ailleurs, et qui ont très mal vieilli.
Mais moi, je dois dire, je vais régulièrement en Normandie et honnêtement, il y a 15 ans, il y avait encore ce genre de scénettes.
Ah oui.
Le passage au centre d'interprétation très moderne, aux simulations, hein, comme vous avez dit, c'est extrêmement, extrêmement récent. Ça a moins de 10 ans. Hein. Allez, on fait tout de suite une petite pause musicale et on a parlé du Pacifique. On a parlé du pont de la rivière Kouai. Je pense que ça aussi, c'est une musique que tout le monde a en tête. Un souvenir de jeunesse, le pont de la rivière Kouai.
Oui.
Là encore, on est dans quelque chose de très tonitruant. Allez, les gars, on y va, on y croit, oui, on va tous revenir.
C'est très stéréotypé. Hein.
Ces
films, c'était
presque un peu simpliste. Hein.
Oui, parce que j'ai encore regardé un film hier soir de l'US Navy. C'était très cocardier au niveau américain. C'était comme aujourd'hui, hein, c'est nous les meilleurs.
Et nous allons effectivement essayer ce matin de ne pas parler que des Américains, parce que déjà au débarquement, il y avait pratiquement autant d'Américains que de Britanniques, il y avait aussi des Canadiens, puis il y avait la petite troupe du commandant Kiefer,
oui.
Hein, ils étaient moins de 200 hommes je crois, mais ils étaient quand même présents,
oui,
et, puis, et puis je souhaiterais aussi que l'on parle des Allemands, parce que dans l'imaginaire, eh bien, on a un peu vite fait de tout... catégoriser, tous les Allemands n'étaient pas au même niveau d'idéologie et parmi eux, il y avait aussi des pères, des frères, des jeunes garçons qui n'avaient pas choisi d'être là et qui sont restés aussi éternellement sur les plages du débarquement. Alors, à Jean-Marie, Jean-Marie veut prendre la parole.
Et puis ne pas oublier les parachutistes qui ont tous sauté dans la nuit du 5 au 6.
Absolument.
Et notamment
notamment John Steele qui est resté sur l'église de Sainte-Mère.
Voilà, mais bon. et aussi les soldats qui se posaient avec les planeurs au pont de Bénouville, etc. Et qui ont subi beaucoup, beaucoup de pertes avant justement les premières vagues de débarquement.
Oui, oui. Est-ce que vous voulez expliquer justement à nos auditeurs comment le D-Day a été lancé? Donc, on a envoyé déjà les paras.
Oui, oui. Bah déjà, un bombardement intensif des côtes par la marine.
Mmh.
Et ensuite, un nombre impressionnant de parachutistes qui, malheureusement, Beaucoup ont raté leur cible, se sont noyés dans les plaines qui avaient été noyées par les... qui avaient été...
Et voilà les corps qu'on ne retrouve jamais. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces hommes qui ont été perdus dans les marais, perdus dans la mer. Et
je crois que les gens qui ont le plus souffert psychologiquement, c'est les gens qui étaient les soldats qui étaient dans les planeurs. Parce que le parachutiste qui tombait avec son parachute,
Bon, ceci dit, des fois, on tombait pas très bien. Hein.
Oui, mais les planeurs, vous voyez des dizaines de planeurs se poser dans la campagne normande qui est pleine de haies, etc. Donc, il y a eu énormément de... Et ça, on parle toujours du débarquement sur les côtes, mais on parle assez plus rarement de tous ces parachutistes.
C'est vrai. Donc, ne pas oublier, il y a 150 000 hommes qui ont débarqué.
La 82e et la 101e...
La 101e Airborne.
Qui existe encore...
Bien sûr.
Qui est toujours prête à partir.
Absolument, toujours prêt, comme les scouts. Les jeunes, on vous donne la parole. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de m'expliquer ce qu'il ou ce qu'elle a vu en arrivant, ce qui l'a marqué le plus?
Moi, du coup, c'était quand nous sommes allés sur les plages. Comme Matt a dit tout à l'heure, tout ce qui était resté, ça m'a vraiment marqué. Je ne pensais pas que ça impacterait autant la Normandie, que ce serait resté aussi longtemps. Mmh. Du coup, ça m'a vraiment ému de voir ça et de voir le concret de ce qu'on apprend à l'école ou au collège.
Très bien.
Alors, Lucas. Moi, de mon côté, ce qui m'a beaucoup surpris en arrivant, c'est le nombre de soldats qui sont décédés sur ces plages et surtout le fait que pendant le débarquement, les plus jeunes étaient envoyés en première ligne parce que dû au manque d'expérience qu'ils avaient, ils étaient envoyés en premier pour un peu comme APA.
Oui, avant d'envoyer, pour faire le... faire la place.
Exactement.
Mmh. Et pour ma part, ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment les paroles des guides qui ont pu nous expliquer ces moments très cruciaux que sont le débarquement et tout ce qui va être parachutisme et tout ça. Parce qu'on sent vraiment de l'émotion dans leurs propos et ils essayent au maximum de nous les partager. Et au final, ça marche. Et nous aussi, on finit par être touchés, même si pour nous, c'est assez lointain.
Oui. Et est-ce qu'à un moment a été évoqué le fait que, on ne va pas se cacher, hein, pour un petit jeune de 18 ans du fin fond du Milwaukee, l'Europe, ça ne signifiait pas grand-chose. Peut-être même qu'il n'arrivait pas à le situer sur une carte. Est-ce que les guides ont parlé un peu de ce côté comment pouvait-il trouver la motivation pour venir sur les plages alors qu'il ne connaissait même pas le pays? Non, ça n'est pas évoqué. Oui, Romain, bien sûr.
Oui, en fait, les différents lieux qu'on a pu voir ou la journée avec la guide sur place, ils ne sont pas rentrés dans ce détail-là. Ils sont vraiment restés axés sur le D-Day en lui-même. Bien sûr. Mais pas sur comment les troupes sont arrivées en Normandie ou des choses comme ça. C'est vraiment très restreint sur le D-Day en lui-même, le jour du débarquement. Quoi.
Et moi, je vais le faire à la place du guide parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et c'est vrai, je me suis toujours dit, mais comment les mamans ont pu laisser partir leurs fils? Comment les fils sont arrivés? Et il y a évidemment, d'après ce que j'ai lu, il y a évidemment une forme de patriotisme très ancrée. Il y a le fait que l'Amérique est entrée en guerre puisqu'il y a eu le bombardement de Pearl Harbor et que pendant un certain temps, ils ne se sont pas tellement sentis concernés parce que c'était l'Europe, c'était loin. Et là, quand ils ont été touchés par les Japonais sur Pearl Harbor, ils se sont dit il va falloir quand même qu'on rentre en action. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est que il faut remettre dans son contexte et que ces jeunes-là sont des jeunes qui ont vécu dans les années 20 et 30 et qui ont connu la grande crise américaine. Vous avez dû en entendre parler dans vos livres d'histoire. Et donc, du coup, ce sont des jeunes qui ont été élevés à la dure. Hein, c'est pas la petite ambiance de maintenant. Donc, ils ont le sens du sacrifice. Et puis surtout, et c'est ça que je voulais partager avec vous, surtout ce qui les a fait agir jusqu'au dernier moment. Et ça, ils l'ont tous dit. Tous les survivants du débarquement ont dit « Moi, j'y suis allée pour le gars qui était à côté de moi. » Parce qu'on était un groupe et qu'on devait partir ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont sauté. Est-ce que quelqu'un, parce que je sais que ça vous a beaucoup, beaucoup marqué, est-ce que vous avez en mémoire le nombre de jeunes et de moins jeunes quand même qui sont restés et qui sont enterrés en Normandie. Non, c'est Lucas. Je sais que Lucas est très comptable. J'ai oui, vu ça.
Moi, j'ai, je me rappelle encore du nombre que la guide nous avait dit. Elle nous avait évoqué 9389 tombes.
Absolument.
Donc, sachant qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été retrouvées.
Oui. Et il y a 1557 noms de disparus sur le mur du cimetière de Colville. Hein, je sais, Romain, vous m'avez dit à quel point ça vous avait touché, hein, ce mur.
Oui, parce qu'en fait, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive au cimetière de Colville. Le mur est vraiment à l'entrée. Et ce qui est surprenant, c'est l'immensité du mur, parce que quand on est devant, on se voit vraiment petit. Et sur ce mur, c'est le nombre de noms et de prénoms qui sont inscrits. Et ce qui m'a marqué sur ce mur, et j'ai trouvé ça chouette. Tous les noms de ceux qui n'ont pas été retrouvés sont gravés, et si au fur et à mesure des années ils sont retrouvés, ces noms-là ne sont pas forcément effacés.
Oui.
Il y a une petite étoile en étain ou en laiton, je ne pourrais pas vous dire exactement, qui est mise, et c'est ce qui nous... Enfin, en termes d'image,
c'est fort
parce qu'on se dit, bon, bah, là il y a une étoile, lui il a été retrouvé, donc ça veut dire qu'on peut retrouver sa tombe dans le cimetière juste derrière le mur. Et ça, c'est quelque chose qui nous a quand même pas mal marqué.
Et c'est vraiment très joli ce que vous nous dites, parce qu'il y a les deux choses essentielles sur le devoir de mémoire. C'est effectivement le respect et l'hommage. On ressent ça dans ce que vous dites. Et effectivement, c'est tellement mieux de ne pas rayer un nom parce qu'il est parti tout simplement ailleurs. Ils sont partout ces jeunes, hein, effectivement. Ne pas oublier qu'au cimetière de Colville, qui est impeccablement tenu, je rappelle que c'est une terre américaine, hein, c'est un petit confetti américain sur notre terre de France, donc c'est tenu par les Américains et c'est tenu à l'américaine, donc c'est magnifique, mais sous ces 9000 sépultures, il y a effectivement 9000 corps. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de décès, et il fallait arriver à la libération. Et c'est cette évocation musicale que je vous propose maintenant, toujours avec Michel Legrand, toujours avec la musique des uns et les autres.
C'est toujours tellement joyeux d'écouter ce jazz. Donc je reviens, hein, c'est bien du Michel Legrand, c'est pas du Glenn Miller. Effectivement, dans le film Les uns et les autres, il y a un personnage qui évoque un peu Glenn Miller et qui, en revanche, poursuit, contrairement à Glenn Miller qui, lui, n'a pas passé l'année 1944. Il est éternellement la bande originale du débarquement. Et lui qui était aviateur, n'est-ce pas Jean-Marie, est mort en vol en décembre 1944. C'est dramatique.
Je crois que c'est la nuit de Noël 44.
Un peu avant, je crois, le 15, il me semble. Enfin, en tout cas.
Son avion a disparu au-dessus de la Manche. Et on croit qu'il a dû croiser une formation de bombardiers qui n'avait pas lâché ses bombes sur l'Allemagne. Et qui généralement lâchait les bombes avant de se poser en Angleterre, il lâchait les bombes au-dessus de la Manche. Donc il a dû passer en dessous et subir.
Il y a eu quelques petits ratés, on va revenir sur ce sujet-là. En attendant, je vais passer la parole à Malvine. Nous sommes donc tous ensemble sur Pleine Radio. Malvine est également aux commandes avec moi et il va nous lire des dédicaces.
Eh bien, les dédicaces, j'en ai deux. Et j'en ai deux et ils vont directement aux jeunes. Et mademoiselle, messieurs, vous avez tous les encouragements de Cécile et de Émilie.
Bravo.
Qui sont très très heureux de se rendre compte que vous intéressez à l'histoire de notre pays et du coup, par la force des choses, du monde. Et c'est chouette et ils vous encouragent fortement. Et merci, merci beaucoup. Voilà, Cécile et Émilie.
Ça, c'est drôlement mignon. Alors, effectivement, on va revenir un petit peu sur la préparation en fait, du débarquement. On ne va pas raconter comment s'est préparé le débarquement la veille, l'avant-veille. Je pense que d'autres le feront mieux que nous. En revanche, j'aimerais discuter avec Jean-Marie d'un épisode de nos plaines de Champagne, puisque c'est à Mailly-le-Camp. C'était un mois avant le débarquement, dans la nuit du 3 au 4 mai. Évidemment, c'était de l'anticipation et ça a un peu tourné quand même à la tragédie. Je vous laisse raconter Jean-Marie.
Parce que la mission sur Mailly-le-Camp faisait partie des opérations d'anéantissement de l'armée allemande.
Alors pourquoi qu'est-ce qu'il y avait de l'armée allemande à Mailly-le-Camp?
En fait, il y a beaucoup de Panzerdivisions qui revenaient de l'Est ou du Sud de la France. Qui devait être rééquipé ou remodernisé. Et donc Mailly-le-Camp étant un grand centre de chars de combat, même avant la guerre, donc était utilisé par les Allemands pour remettre en état les Panzerdivisions qui devaient justement monter vers le nord de la France pour en attendant le débarquement.
Puisqu'on rappelle quand même, on va le dire, bien évidemment que les Allemands se doutaient qu'il allait y avoir un débarquement. Oui. Le seul truc qu'ils ne savaient pas, c'est où ce serait, quand ce serait et où ce serait. Donc ils étaient plutôt focalisés sur le Pas-de-Calais,
Même les Alliés avaient monté une opération qui s'est appelée Fortitude.
L'opération de l'heure, génial. Voilà,
qui devait justement faire croire aux Allemands que tout était concentré sur le Pas-de-Calais.
Voilà. Mais par précaution, c'était quand même un petit peu bien d'éclater les Panzers.
Oui.
Donc c'est la Royal Air Force.
Oui, parce que d'ailleurs, l'histoire a beaucoup couru que en fait, les Panzers divisions avaient été détruites à Mailly. Mm-hmm. Alors qu'en fait, quand on connaît les numéros de Panzers, on les retrouve dans la bataille de Normandie, mais pas les premiers jours.
D'accord.
On voit qu'ils ont eu des difficultés.
Ils se sont fait un peu réparer.
Notamment dans la région, par exemple, la résistance faisait sauter les lignes de chemin de fer pour empêcher que les rames de...
C'est tout le travail de la résistance qui était prête à intervenir pour freiner la réaction des Allemands.
Voilà, et puis l'aviation alliée.
Alors, l'épisode du 3 au 4 mai à Mailly-le-Camp, ça a quand même été... Donc, j'ai dit, c'est la Royal Air Force qui est intervenue, donc les Britanniques. Il y a quand même eu beaucoup de pertes. Est-ce que l'on peut dire que ça a été quand même un épisode utile dans l'anticipation du débarquement?
Oui et non, parce qu'en fait, la mission est tournée au cauchemar pour les Anglais, parce que les Anglais ont subi des interférences radio qui les ont empêchés d'agir correctement sur le camp de Mailly. Donc malheureusement, il y a 42 quadrimoteurs qui ont été descendu par la chasse allemande. Et donc, a priori, il y a eu pratiquement plus de tués dans les équipages de la Royal Air Force que chez les Allemands au sol.
Et récemment, Pleine Radio, c'est-à-dire en l'occurrence Alex, est allé faire un reportage pour la commémoration de Magny-le-Camp et j'ai eu l'occasion de discuter avec un pilote de la Royal Air Force en lui demandant, voilà, est-ce que pour vous c'était quand même pas uniquement une tragédie? Et c'est vrai qu'il a eu cette phrase extrêmement sage de dire, de toute façon dans la guerre, tout sert. Même s'il y a des pertes, et c'est exactement le débarquement. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a eu des pertes, mais il fallait le faire, et ça a eu son rôle.
C'est-à-dire, Mailly, entre le moment où la résistance a signalé une présence de chars importante sur le camp, et le moment où la Royal Air Force a décidé d'intervenir, il s'est passé un laps de temps trop important. Et donc les Allemands se sont aperçus que le camp allait être attaqué. Donc,
et ils ont eu le temps de réagir.
Ils ont camouflé des chars beaucoup dans les sapins de la région. Et donc, automatiquement.
Ok. Tout à l'heure, je vous redonnerai la parole parce que vous avez tellement eu ce choc émotionnel sur les plages du débarquement que vous en avez fait quelque chose.
Oui.
Vous êtes devenu extrêmement actif dans cette démarche de devoir mémoriel et de commémoration. Et donc, on reprendra un temps spécial pour parler de tout ça.
Volontiers.
Et de nouveau, un peu de musique, toujours du Michel Legrand, mais ne vous inquiétez pas, on va sortir du Michel Legrand. Mais là, on est sur une toute autre ambiance. Parce qu'on parle en ce moment effectivement des jeunes qui sont venus sur les plages. Et puis de l'autre côté des plages, eh bien, il y avait aussi les familles qui attendaient. Et là, c'est une musique qui est issue de ce très beau film qui s'appelle Un été 42 et qui parle aussi de l'attente du soldat qui est parti et qui reviendra ou qui ne reviendra pas.
Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a ému le plus, enfin en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, c'est quand même le cimetière de Colville? Qui veut prendre la parole là-dessus?
Eh bien oui, on peut tout à fait dire ça, parce que vraiment c'est un lieu très très touchant, parce que c'est vraiment là qu'on voit l'ampleur des dégâts de cette guerre et toutes les pertes qu'on a pu connaître. Même si ce cimetière-là était un cimetière américain et qu'on n'a pas pu voir de cimetière des autres nations, on voit quand même que c'est quand même très très important.
Jean-Marie, vous connaissez, vous, les autres cimetières?
Oui, il y a notamment le cimetière allemand de Lacan, bah, bien sûr, qui est moins fréquentable, si on veut. Mais c'est vrai, ce qui est émouvant, c'est de voir l'âge des soldats allemands qui ont été tués, notamment les jeunes SS qui avaient 17-18 ans, qui étaient issus des jeunesses hitlériennes, et qui se sont battus comme des fauves. Hein, comme.
Oui, parce qu'ils avaient aussi leur loyauté à leur patrie. Hein.
Moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus, touché, c'est de voir l'âge de ces gamins hein, qui se sont battus pour leur pays, alors qu'en fait, tout était perdu.
C'était comme ça dans tous les pays, mais je crois quand même que l'on peut dire, alors je ne sais pas si le cimetière allemand, parce que, comme vous dites, il est peut-être moins fréquenté par les touristes, et donc je n'y suis jamais allée.
Et puis en plus, il est très sombre, parce que les tombes allemandes, c'est de la pierre noire, la pierre grise.
Alors que le cimetière de Colville, on est d'accord, les jeunes, c'est très beau, c'est très lumineux.
Il est flamboyant, oui.
Oui, il est vraiment paisible également, et puis surplombe la plage, comme on disait tout à l'heure, Omaha la Sanglante, mais qui maintenant est une plage magnifique. Et il y a cette ambivalence entre cet endroit terrible, mais où on se sent très très bien à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez une expérience à partager avec nous, puisque vous êtes arrivé à l'heure, visiblement, où il y a une cérémonie quotidienne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, c'est ça. On a assisté à une cérémonie juste en arrivant, après avoir regardé les murs. Nous sommes arrivés et il y avait deux coups de fusil dans cette cérémonie-là et une minute de silence où les Américains ou les familles, amis des proches décédés se retournaient pendant une minute avec l'hymne national.
Oui, donc ça prend quand même un petit peu au trip quand même. Hein.
Oui.
Et d'après ce que j'ai compris, c'est une cérémonie qui a lieu tous les jours, à la même heure.
Oui, c'est exactement ça.
Ce qui montre bien qu'il y a toujours des familles américaines qui viennent sur les tombes de leurs ancêtres.
Et ce qui est marquant sur les familles américaines, justement, c'est que maintenant, ça remonte à des décennies. Mm-hmm. Et c'est de voir l'émotion qu'ils ont en eux, puisque nous, on les a vus hein, pleurer en se recueillant ou des choses comme ça.
La main sur le cœur, évidemment,
exactement.
À l'américaine.
Et du coup, ça provoque également chez nous, visiteurs, on va dire, une émotion, parce qu'on partage, du coup, leur émotion. Et c'était vraiment très, très émouvant. Dans un calme olympien, c'était vraiment très émouvant.
Et est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce cimetière? Je crois que... Oui, c'est Lucas qui va nous expliquer.
Alors moi, un truc que j'ai trouvé beau sur ce cimetière, c'est que déjà, chaque tombe, on ne peut pas les différencier. Et du coup, le moyen que les proches trouvent pour voir les noms sur les tombes, c'est d'y mettre du sable. Donc ils mettent du sable sur la tombe et avec les gravures des prénoms dessus, on peut voir apparaître le nom en doré.
Oui, ça c'est vraiment un postulat très très fort pour ce cimetière, c'est qu'effectivement les noms n'apparaissent pas au grand jour, donc il y a ce geste très joli hein, de remettre du sable de la plage dessus, et puis il y a aussi le fait que tout le monde est mélangé et tout le monde est enseveli de la même façon. Qu'il soit général ou simplement soldat d'infanterie, tout le monde est traité de la même façon dans ce cimetière. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, Jean-Marie, sur le cimetière de Colville?
Non, moi, c'est vrai que je confirme le côté solennel, mais c'est beau à voir quand même, parce que c'est un lieu de recueillement, mais qui est agréable. Bon, il y a la vue sur la mer...
Oui, c'est un très très bel endroit,
oui,
hein.
Oui,
c'est
oui,
très très beau. Et donc en 64, vous étiez allé le voir, tout
oui,
jeune
oui,
enfant?
Oui, parce qu'en fait, il venait d'être, pas concrétisé, mais aménagé, parce qu'avant c'était des croix de bois, hein. C'était un champ avec des croix de bois. Hein.
Et ça, vous l'avez vu ?
Non, non.
Non, vous avez vu les stèles en pierre.
En 64, le cimetière était déjà sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui, qu'on lui connaît aujourd'hui.
Très bien. Mmh. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur le cimetière de Colleville ? Non. Alors, on va enchaîner avec un tout autre genre de musique et une autre façon de raconter la guerre. Hein. Tout à l'heure, on était sur des films un peu tonitruants, un peu manichéens. Et à partir des années 2000, on peut dire que notamment le cinéma américain a basculé vers quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et la musique que l'on va entendre accompagne totalement ça, puisqu'on va être vraiment dans une musique extrêmement dramatique, extrêmement chargée en émotions. Et ce que je vous propose, c'est la bande originale de la série Band of Brothers, qui suit en fait ce que l'on a appelé la Easy Company, c'est-à-dire une compagnie qui était elle-même issue de la division de la 101e Airborne et qui a tout vécu, qui est arrivée en Normandie et qui est allée jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler. Et très belle série, je ne peux que vous conseiller de la regarder encore, qui est assez réaliste hein, sur tous les éléments qui composent l'histoire. Et là voilà, je vous laisse écouter cette musique qui emporte davantage hein. C'est un peu moins la fanfare tout de suite. Là, vous aurez bien compris, on rentre dans l'émotion pure et on ne va plus la quitter. Je voudrais redonner la parole à Matt, parce que je crois que tu as une anecdote sur Colleville.
Oui, tout à fait. Donc, durant notre visite, notre guide nous a raconté l'histoire de deux frères jumeaux qui sont venus se battre en France pour leur nation. Et donc, dans ces deux frères, donc on a Julius Piper et son jumeau Ludwig. Et un des deux a péri durant la guerre et a été retrouvé. Donc il a été enterré dans ce cimetière. Cependant, son frère lui aussi a péri, mais le problème c'est que le corps n'a jamais été retrouvé. Donc il a été gravé sur le mur des soldats disparus. Et à force de recherche, les historiens et archéologues ont trouvé finalement son corps, et on demandait à la famille, toujours en Amérique, ce qu'ils souhaitaient faire du corps. Donc cette famille a répondu qu'elle souhaitait que les deux jumeaux soient enterrés à côté dans le cimetière. Et cette requête a donc été écoutée et exécutée.
Et donc les deux jumeaux ont été regroupés.
Oui, c'est ça que tu veux nous dire. Ils sont tous les deux ensemble dans le cimetière. Et le jumeau qui n'avait pas été retrouvé a donc maintenant aussi sa petite étoile sur le mur des soldats perdus.
C'est une belle histoire. C'est une belle histoire et c'est effectivement le choix des familles, hein, on peut le dire. Il y a environ 60% des familles qui ont préféré que les corps repartent aux États-Unis. Et donc, les 9000 que l'on a là sont les 40% qui restent, qui ont, eux, choisi de rester sur la terre de la liberté. Très jolie histoire. Jean-Marie.
On a le même phénomène pour les équipages d'avions tombés sur le sol national. Une partie des... Moi, quand j'ai fait des recherches sur les équipages tombés dans la région, j'ai trouvé justement des noms au cimetière américain d'Épinal, et puis d'autres que je n'ai jamais retrouvés. En fait, j'ai eu cette explication que les corps avaient été réclamés par les familles. Et donc, certains sont donc en France et d'autres sont repartis aux USA.
Oui, et c'est bien compréhensible.
Contrairement aux Britanniques, où vous le constaterez dans la région, tous les équipages qui sont tombés dans chaque commune sont encore au cimetière.
Sont encore ici.
Oui, oui. Les tombes entretenues par le service des sépultures britannique. Mais par contre, tout l'équipage est resté intégralement dans la commune.
Donc c'est quand même important, quand on voit les cimetières, et Dieu sait qu'il y en a dans notre région, bien, ce ne sont pas tous les corps. Il y en a eu d'autres, voilà. Pour les États-Unis, il y a quand même 60% des tués qui sont repartis dans leur terre d'origine. Et effectivement, pour continuer sur le registre de l'émotion, avant de partager le prochain morceau, je voudrais aussi dire que la libération, pour beaucoup de jeunes enfants, ça a été aussi une merveilleuse rencontre avec des soldats qui étaient si différents des soldats français auxquels ils étaient habitués. Moi, je me souviens, par exemple, mon papa, qui a connu la libération, il avait 8 ans en 44, qui me dit à quel point, quand il a vu les Américains, ils les ont trouvés beaux, différents, et ils avaient des chaussures, enfin des bottes en caoutchouc, qui ne faisaient pas de bruit par rapport aux galoches françaises, et qui leur donnaient... voilà, une élégance un peu féline. Mais il y a aussi un très grand souvenir pour tous ces jeunes enfants qui ont croisé les soldats américains. C'est un souvenir de goût. Pour certains, ça a été le chocolat, parce que les Américains sont arrivés avec beaucoup de victuailles. Mais le chocolat, à la limite, ils connaissaient. Ils en avaient peut-être quand même encore un peu le souvenir des années d'avant-guerre. En revanche, il y a bien une chose que les Américains ont amenée et que les petits Français ne connaissaient pas du tout, c'était les chewing-gums à la cannelle. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux, ce souvenir olfactif est resté bien au-delà des souvenirs de bruit de char, de violence. Les jeunes Français ont gardé ce souvenir à jamais. Et le morceau qui suit est effectivement toujours issu de Band of Brothers. Et il s'appelle « Le petit garçon qui mange du chocolat ».
Voilà, c'était un morceau pour ne pas oublier tous les petits garçons et toutes les petites filles qui ont connu ce moment. Ça leur est resté gravé au cœur et eux aussi sont devenus des passeurs à leur façon. On va commencer à être un petit peu sur la fin de l'émission et je voudrais savoir ce que vous avez retenu de ce voyage émotionnellement ou intellectuellement. Comment vous en avez parlé en rentrant chez vous? Qu'est-ce que vous en avez fait de ce voyage?
Alors moi, du coup, j'ai raconté tous les détails à ma famille. J'étais vraiment contente de ce voyage, même si on était parfois émus de ce qu'on voyait, notamment les paysages, la plage, le mémorial, le cimetière, etc. Donc ouais, c'est vraiment émouvant d'avoir vécu ça.
Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais déjà le goût de l'histoire. Est-ce que ce voyage t'a renforcé ce goût pour l'histoire? Est-ce que ça t'a donné envie de lire davantage, de regarder des films?
Souvent les films, oui. Plus les films, notamment Le Soldat Ryan, que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Et oui, apprendre davantage sur l'histoire. Et pourquoi pas refaire une colo comme ça.
Qui veut prendre la parole?
Alors, moi, ce voyage, j'ai adoré, hein, parce que l'histoire, ça m'intéresse tout. Donc, quand je suis rentré, quand j'ai raconté à ma famille ce qu'on avait vu, et ça nous a donné envie d'y retourner. Donc, le week-end suivant, la colo.
Dis donc, action, réaction.
Avec ma famille, on y est retourné et j'ai pu en même temps leur transmettre ce que moi j'avais appris durant cette colo. Donc,
Qu'est-ce que tu leur as transmis alors? Qu'est-ce que tu leur as dit?
Je leur ai tout ce que j'avais retenu, par exemple, de la journée avec la guide, tout ce qui s'était passé le jour du D-Day.
Et alors, une fois là, sur place, avec ta famille, tu as un peu servi de guide à ton tour?
Exactement.
Ah, c'est bien ça. Alors, c'est toi qui organiseras le prochain voyage de la colonie?
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des choses, d'ailleurs, que vous auriez pu visiter, que vous n'avez pas visité? Vous vous êtes dit, Romain, la prochaine fois, on veut voir ça.
Alors sur les visites, il y a une multitude de choses à voir. C'est vrai que nous, on a essayé de privilégier certains lieux connus, on va dire, mais je reste persuadé. Après, moi, je ne suis pas un fin connaisseur non plus. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais, je me suis rapproché de l'office de tourisme et des différentes choses. Mais il y a une multitude de choses à visiter. Donc après, pourquoi pas par la suite... Vous parliez tout à l'heure de Sainte-Mère-l'Église avec les parachutistes. C'est une chose qu'on n'a pas faite et je pense que ça peut être marquant pour les jeunes de voir le lieu où le parachutiste est accroché à son clocher. Enfin, et d'ailleurs,
c'est aussi
je crois
une sacrée histoire.
Ouais, je crois que visuellement, il y a toujours...
Il y est toujours, ouais, il y est toujours.
Et c'est des choses... Parce que le but aussi, c'est de pouvoir... marquer visuellement les enfants des différentes visites qu'on peut faire, parce que je reste persuadé qu'on garde toujours en mémoire de plus belles choses qu'on voit réellement que ce qu'on peut lire dans les livres, des choses comme ça.
D'ailleurs, je reviens à ce que je viens de dire, il y est toujours. Donc non, ce n'est pas John Steele qui est resté accroché depuis, parce qu'il s'en est sorti. Donc c'est une vraie histoire, il s'en est sorti et malgré tout, voilà, la commune de Sainte-Mère a souhaité mettre un mannequin parce que visuellement ça marque et c'est bien que vous parliez de Sainte-Mère parce qu'effectivement pour les gens qui ont envie d'aller sur les plages et vraiment cette émission est faite pour ça, allez-y, c'est un très bel endroit, ça n'est pas dramatique, c'est juste émouvant. Sainte-Mère peut paraître un tout petit peu loin, mais honnêtement, il faut y aller. Ça fait partie du pèlerinage.
En fait, sur les infrastructures, ils ont réussi à lier l'émotion et l'œil du touriste.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que ça reste agréable à voir, même si on connaît la tragédie, même si on sait que ça a été sanglant, justement. Mais ça reste vraiment agréable à voir. Et c'est une façon d'apprendre les choses de façon un peu plus ludique que ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire.
Parce que je crois que tout le travail qui a été fait en Normandie par rapport à ce souvenir, c'est quand même justement de ne pas d'axer le discours sur c'était comme ça la guerre, voilà comment c'était organisé, etc. Mais c'est plutôt déjà un petit peu plus sur les hommes dans la guerre, plutôt que le côté effectivement stratégie militaire, etc. Donc les hommes pendant la guerre, et aussi n'oubliez pas que la paix est fragile, et réfléchissons à la guerre pour mieux préserver la paix. Je pense que c'est aussi quand même un peu ce que l'on ressent lorsqu'on visite les plages. Jean-Marie ?
Non, puis il y a un impact économique parce que le débarquement a coûté très cher à la Normandie, hein, notamment dans la destruction des villes comme Caen. Et donc aujourd'hui, commercialement, il se rattrape un petit peu.
Oh, je ne sais pas si c'est le but, mais en tout cas, ça serait dommage de ne pas profiter du tourisme, du tourisme de mémoire.
Moi, je vais vous avouer quelque chose. Ce qui m'a le plus marqué en Normandie en arrivant, c'est le cidre et les crêpes.
Ah, très bien. Chacun ses obsessions, Jean-Marie. Alors, je me souviens avoir demandé à chacun d'entre vous si vous vous étiez ramené un petit souvenir. Alors, pour vous, pour quelqu'un d'autre.
Alors, Matt. Oui, bah, moi, pour ma part, j'ai donc un petit frère qui collectionne les pièces de la Monnaie de Paris.
Oh, alors là, parfait.
Donc, j'ai pu lui ramener une petite pièce que j'ai pu acheter au Mémorial de Caen, où on peut voir dessus un avion du débarquement.
Très bien. Lucas, tu as ramené des choses ? Oui, mais toi, tu es reparti deux fois en deux semaines, donc c'est pas mal. Tu as bien joué pour l'économie normande. Noémie, tu as ramené quelque chose ?
Non, j'ai rien ramené, à part un truc qui n'a rien à voir, un bracelet, mais
on est un petit peu fille, tu sais. Regarde, moi, j'ai ce fabuleux t-shirt que je n'ai pas hésité à mettre ce matin. Et Jean-Marie ?
C'est vrai que les marchands de souvenirs font recette. Hein,
oui, quand on a préparé l'émission, je vous avais demandé, est-ce qu'en 64, il y avait déjà beaucoup de souvenirs en vente ?
Non, ça n'existait pas. Non.
Ouais. Et vous m'aviez dit cette chose très importante qui m'a marquée, c'est mais non, parce que les gens étaient tellement encore dans l'histoire qu'ils n'allaient pas vendre leurs souvenirs tellement récents. C'était vraiment trop à vif.
Ah non, moi j'ai connu encore une plus grande émotion. Et bizarrement, il y avait très peu de vétérans qui venaient à l'époque. Il y avait très peu de vétérans qui venaient à l'époque parce qu'ils étaient encore
sous le choc.
Trop dans leur... ça, c'est quelque chose que j'ai connu à Mailly. Dans les premières cérémonies qu'on a faites, il y avait très peu de vétérans qui venaient. Et par exemple, à 70 ans, ils ne voulaient plus en entendre parler. Et par contre, 10 ans après, ils sont venus avec leur... et au 50e anniversaire, on a eu 100 vétérans de la Royal Air Force.
On va parler de votre engagement sur la commémoration et le souvenir. Je voudrais juste redonner la parole à Matt, parce que Matt, tu ne nous as pas, du coup, on a parlé breloque, et tu ne nous as pas dit ce que tu avais ramené chez toi d'émotions, de souvenirs, pour en parler avec ta famille, ou ce que ça t'a fait, toi, pour l'avenir.
Alors, c'est sûr que je suis revenu avec un petit souvenir matériel, mais... c'est principalement des souvenirs qui vont rester ancrés dans notre mémoire qu'on ramène avec nous de cette colonie. Et ce que j'ai apprécié, c'est que nos grands-parents qui ont plus vécu... enfin, grands-parents, plutôt arrière-grands-parents, pardon, qui ont plus vécu cette tragédie, bon, pour ma part, ils étaient très jeunes, mais ça reste des souvenirs quand même importants. On a pu vraiment partager... et avoir un contraste entre ce que nous, on nous a raconté et ce que notre famille a pu nous raconter de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes.
Est-ce que tu peux donner un exemple précis ou c'est un peu émotionnel?
Alors, pour ma part, j'ai mon arrière-grand-père qui a été envoyé en France parce qu'il était d'origine polonaise et que sa mère a voulu le protéger en lui faisant traverser les frontières pour atteindre la France et pour qu'il ait des chances de survivre en fait à ce chaos.
Et ça, tu le savais déjà avant de venir ou c'est le fait d'être venu dans cette colonie, vous vous êtes mis à parler de vos histoires, enfin de votre histoire de famille?
Alors ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais c'est sûr que le fait d'avoir été à cette colonie, ça a remis le sujet... au milieu des conversations, des repas de famille, et c'est quelque chose que j'ai trouvé enrichissant.
C'est ça aussi, hein, la mémoire et le souvenir.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Jean-Marie, parce qu'effectivement, comme on se disait tout à l'heure, vous avez donc découvert les plages du débarquement, ça vous a éveillé une vraie passion, et cette passion, vous l'avez vraiment mise au service du souvenir.
C'est quelque chose qui m'intéressait avant, parce que dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à construire des maquettes d'avions et à lire des récits sur la Seconde Guerre mondiale, mais principalement sur l'aviation.
Okay. Donc, et à quel moment vous avez eu envie, vous vous êtes dit, maintenant, moi, je vais devenir actif, je veux aussi participer à ce devoir de mémoire?
En fait, quand, dans les repas de famille, j'ai entendu beaucoup de récits, non seulement de la guerre 14-18, mm-hmm. mais aussi
et de la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc j'ai voulu en savoir plus, surtout, et surtout corriger les erreurs chacun avait sa propre version. Sous l'émotion, les gens qui l'ont vécu racontaient ça d'une façon... pas exagéré, mais enfin d'une...
Un peu subjective.
Oui, qui avait pris une ampleur dans leur esprit, parce que celui qui a été sous les bombes, automatiquement, okay. il n'a pas la même réaction.
Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait à Mailly-le-Camp? Parce que vous avez été extrêmement actif.
Alors, pour raconter l'histoire de Mailly-le-Camp, en fait...
Très rapidement, Jean-Marie, il nous reste quelques minutes.
En 88, il y a un frère des membres d'équipage d'un avion tombé à Voué, dans l'Aube, qui est venu faire une petite cérémonie. Et c'était le déclic à plusieurs personnes. On a créé l'association Mailly 3-4 mai. Moi, j'y ai participé en tant que cheville ouvrière, c'est-à-dire j'ai fait le monument.
Oui, quand même, hein, vous avez participé très concrètement.
J'ai fait un bouquin et puis une médaille commémorative. Et donc, d'année en année, on a accueilli des vétérans et... Comme je vous disais tout à l'heure, au 50e anniversaire, on avait 100 vétérans, donc avec tous les récits. Et on a eu la chance d'avoir le pilote qui a dirigé au-dessus de la mêlée avec son avion. Il a dirigé le bombardement et il est resté tout le temps du bombardement au-dessus des bombardiers pour voir ce que...
Pour diriger, pour surveiller.
Surtout pour surveiller les points, parce qu'en fait, pour bombarder... Les avions faisaient un triangle lumineux au sol.
On reviendra sur les aspects techniques. Il faudra revenir, Jean-Marie, parce que ça mérite une émission à part entière.
Et donc, d'année en année, on a fait revenir des vétérans.
Oui, c'est là que je veux vous amener à ce point où vous avez permis des retrouvailles assez exceptionnelles.
Par exemple, étant donné que c'était des aviateurs du Commonwealth, il y avait des Australiens, des Néo-Zélandais, des Canadiens.
Bien sûr.
Et des avions tombés, il y avait des équipages... mixte, hein, c'est-à-dire, et donc on a fait rencontrer des gens qui avaient sauté de leur avion en péril et qui ne s'étaient jamais revus, et donc on les a fait se revoir.
Et là on se sent utile quand on fait ce genre de choses.
Parce que l'émotion, elle était à son comble. Hein,
J'imagine. Et l'émotion est à son comble aussi parce que nous voilà arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie tous d'avoir partagé ces expériences, ces regards et puis vos sentiments profonds. Et puis, effectivement, nous allons terminer l'émission avec ce merveilleux morceau issu de la bande originale de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Histoire partiellement vraie, hein. Il est vrai qu'il y a une famille Nyland où il y avait 4 garçons et lorsqu'on a pensé que 3 étaient décédés, alors qu'en fait il y en avait un qui était disparu, donc il n'y en a que 2 qui étaient décédés, tout a été mis en place, dans le film en tout cas, tout a été mis en place pour récupérer le 4e et le sauver. Dans la vraie vie, ils ont eu beaucoup moins de complexité à le retrouver parce qu'ils savaient où il était, mais il est vrai que l'armée américaine, le gouvernement américain a décidé de sauver ce 4e enfant de la famille Nyland. Donc regardez tous ce merveilleux film de Steven Spielberg, cette merveilleuse musique qui va clore l'émission. Je vous remercie tous les uns derrière les autres, Jean-Marie, Matt, Lucas, Noémie, et si vous le permettez, parce que c'est lui qui a rendu ce voyage possible, avec évidemment Cyril Laurent, le président de la communauté de communes, que l'on salue bien bas, pour cette belle initiative. Romain, je voudrais que vous terminiez sur quelque chose qu'une guide vous a dit.
Oui, en effet, et on l'a vu là aujourd'hui dans cette émission, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui a été dit par une guide dans le mémorial de Caen, c'est cette fameuse différence entre l'histoire et le devoir de mémoire. Et c'est l'histoire, on va rester dans les faits, dans les analyses, dans les recherches pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et là, le devoir de mémoire, on va être plus dans tout ce qui est démarche citoyenne et morale. Et je trouve qu'elle est importante, cette chose-là. C'est grâce à l'histoire qu'on peut faire le devoir de mémoire, mais c'est grâce au devoir de mémoire qu'on se rappelle de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est super intéressant.
Merci Romain, on ne pouvait pas imaginer une meilleure conclusion. Je vous donne rendez-vous tout de suite, vous êtes sur Pleine Radio. C'est une émission exceptionnelle pour célébrer les 82 ans du débarquement en Normandie. On enchaîne maintenant avec une émission où il n'y aura plus que des archives sonores, on sera plus sur les bandes originales de films. Je vous remercie tous, parce que tous ensemble, vous avez prouvé une chose, la mémoire reste vivante tant qu'elle se transmet.